Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Belinda Bosuma.
La non-application de la feuille de route du mini-sommet de Luanda par le M23 a provoqué l'escalade de tensions au Nord Kivu et ceci est très préoccupant. Réaction du gouvernement congolais au lendemain du sommet extraordinaire des chefs d'État de l'EAC tenu au Burundi. C'est aujourd'hui que s'ouvre à Cape Town en Afrique du Sud la conférence minière internationale Indaba pour 4 jours. Le thème de cette année, débloquer l'investissement minier africain, stabilité, sécurité et approvisionnement. La RDC, pays minier par excellence, participe à cet événement. Madame, Messieurs, bonjour. Au lendemain de la tenue du 20e sommet extraordinaire des chefs d'État de l'EAC qui s'est tenu à Bujumbura au Burundi, le gouvernement de la RDC réagit. Ce sommet a eu pour objectif l'évaluation de la mise en œuvre du communiqué final du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022 dans le cadre des processus de paix de Nairobi et de Luanda. Dans un communiqué publié hier soir par le ministère des Affaires étrangères, le gouvernement de la RDC dit avoir noté qu'à l'unanimité, les participants ont relevé la non-application de la feuille de route du mini-sommet de Luanda par le M23. DTT avec Noëlla Luzitu Kabambi.
Cette non-application par le M23 de la feuille de route du mini-sommet de Luanda a provoqué l'escalade de la tension au Nord Kivu, ce qui est très préoccupant, dit le communiqué. Les participants à la rencontre de Bujumbura ayant aussi reconnu les pesanteurs qui gênent l'action de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est dans l'exécution de son mandat. Le mandat de la force de l'EAC est sans équivoque offensif, a rappelé le gouvernement de la RDC, selon la lettre et l'esprit des communiqués des 3 conclaves des chefs d'État de l'EAC d'avril et juin à Nairobi, ainsi que du communiqué final du mini-sommet de Luanda. Ainsi, le gouvernement de la RDC souligne dans ce document que la fin des attaques du M23 contre les positions des FRDC et les troupes de la MONUSCO, son retrait des zones occupées, son cantonnement dans les localités spécifiées, le retour des personnes déplacées à leur domicile et la cessation du soutien des forces de défense du Rwanda, RDF, au M23, prévus dans le communiqué final du mini-sommet de Luanda, sont nécessaires à tout dialogue politique, interne et diplomatique pour une solution durable de la crise sécuritaire à l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs. Et pour le gouvernement congolais, poursuit le communiqué, seul le strict respect des prescrits des 3 conclaves des chefs d'État de l'EAC et du communiqué final du mini-sommet de Luanda permet de réaliser ces conditions, de restaurer la confiance entre les États de la région et d'ouvrir les perspectives de paix crédibles.
Entre-temps, sur le terrain des hostilités en RDC, notez qu'un hélicoptère de la MONUSCO qui a décollé de Beni hier dimanche en début d'après-midi à destination de Goma a essuyé des tirs ayant entraîné la mort d'un des membres d'équipage et gravement blessé un autre au casque bleu. L'appareil est néanmoins parvenu à atterrir à l'aéroport de Goma. La chef de la MONUSCO, Madame Bintou Keïta, condamne fermement cette attaque lâche, dit-elle, contre un aéronef porteur de l'emblème des Nations Unies. Elle rappelle que les attaques contre les casques bleus peuvent constituer un crime de guerre et que la MONUSCO ne ménagera aucun effort en accord avec les autorités congolaises pour que les auteurs de cet acte odieux soient traduits en justice. La MONUSCO exprime ses plus sincères condoléances à la famille et au pays d'origine du casque bleu décédé et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Pendant ce temps, les populations de quelques entités du territoire de Rutshuru, toujours au Nord Kivu, continuent à retourner timidement dans leurs maisons. C'est depuis environ un mois que s'observe ce retour progressif de ceux qui avaient fui les zones occupées par le M23. Les conditions mauvaises et difficiles dans les sites des déplacés ne leur permettent plus de survivre, disent-ils. Ils déclarent que c'est à leur risque et péril et souhaitent vivre sous la barbe des rebelles que de mourir de faim. Ces personnes avaient fui les combats du M23. Le point avec Honoré Missi.
Ce retour est observé pour la majorité dans les groupements Binza, Bukoma, Rutshuru Centre, dans la cité de Kiwanja et dans les agglomérations de Rubare, Bunagana et Rumangabo. Ils sont pour la plupart ceux qui ont fui vers Kanyabayonga, Kibirizi, Vichumbi et dans le Lubero. Ces retournés disent être fatigués d'une vie de précarité dans des sites de déplacés. Ils déclarent également être découragés, sans espoir du côté du gouvernement pour rétablir la paix dans leur milieu d'origine, vu vu l'espace que continuaient à occuper les rebelles. Ils décident ainsi, avec angoisse, de rentrer chez eux, affirme un retourné joint au téléphone à Kiwanja qui se dit désespéré. Ces retournés indiquent que dans ces zones de retour, plusieurs structures sanitaires et pharmacies n'ont plus de médicaments et produits de première nécessité. Les rebelles auraient interdit à tous de faire entrer des médicaments dans cette région. Les écoles ne sont toujours pas fonctionnelles non plus. Cependant, d'autres sont toujours sceptiques de retourner. Leurs villages sont toujours sous occupation des rebelles du M23 et leurs alliés. Ce sont les habitants de Tongo, Bambo, Bichusha, Kisigari et Rugari notamment. Des affrontements sont toujours signalés dans ces entités.
Dans le territoire de Beni, ce sont plus de 2000 enfants du groupement de bananes des Kainama qui courent le risque de ne pas être vaccinés contre la rougeole à la prochaine campagne pour des raisons sécuritaires. Pour la société civile locale qui exprime cette crainte, les autorités politico-administratives et sanitaires doivent fournir des efforts avec certains partenaires, notamment la MONUSCO, pour acheminer les vaccins dans leur contrée. Hormis l'insécurité, l'infirmier superviseur chargé des activités de prévention et de surveillance épidémiologique dans la zone de santé d'Oicha évoque également le manque de chaînes de froid dans la région pour conserver les vaccins. Les démarches sont en cours pour trouver des partenaires, a-t-il indiqué. L'armée, quant à elle, s'est dit prête pour sécuriser les équipes de vaccination dans la région. Rappelons que plus de 1000 cas et 12 décès ont déjà été notifiés depuis octobre 2022 dans cette zone de santé. 1993-2023, exactement 30 ans depuis que la province du Nord-Kivu traverse une situation difficile sur le plan sécuritaire, social, économique, humanitaire et des droits humains. Elle connaît des longs moments de peur, des périodes d'angoisse et des graves tensions. Tous ces événements vécus obéissent à une certaine chronologie. À l'occasion de ce triste anniversaire, Denise Loukesso revient sur l'ordre chronologique succinct sur ces événements douloureux pour rafraîchir la mémoire.
Tout remonte en 1993 avec les conflits interethniques dans la région de Ntoto dans les territoires de Walikale. De nombreuses pertes de vies humaines, des blessés, la destruction et les pillages des biens furent enregistrés. C'est le début du mouvement Mai Mai à travers les phénomènes Katuko soutenu par un certain Mutuka Munene. En 1994, on assiste à l'arrivée des réfugiés rwandais dans la région. C'est ce qui va marquer le début de l'avènement des FDLR. À l'heure actuelle, on enregistre des milliers de pertes en vies humaines, des viols et vols, pillages, incendies des maisons et des villages, exploitation illégale des ressources naturelles et de la destruction de l'environnement. Deux ans après, entre 1996 et 1998, c'est l'avènement de l'AFDL et du RCD. Des parcours marqués par des déplacements des populations et des pertes en vie humaine. En 2007, tenue de la conférence de Goma pour tenter de résoudre la crise des groupes armés dans la région. Une année plus tard, on assiste à la reprise des hostilités par les CNDP. Les conséquences de son parcours sont malheureuses. En 2009, signature des accords de paix de Goma entre le gouvernement, les CNDP et les autres groupes armés. En 2013, reprise des hostilités par les CNDP sous une nouvelle casquette du M23 rappelant les accords du 23 mars 2009. En 2014, début de massacres, tueries et déplacement des populations dans la région de Beni, lesquels actes sont perpétrés par des ADF Nalu. Fin 2022 jusqu'en début 2023, reprise des hostilités par les M23 dans les territoires de Rutshuru. Avec l'appui de leurs alliés, les rebelles occupe de nombreuses localités, dont les territoires de Rutshuru, Niragongo et de Masisi. Les affrontements font rage, jetant ainsi sur le chemin d'exil des milliers de familles. Cette situation a eu comme conséquence de voir de nombreux enfants qui n'ont pas pu étudier depuis 30 ans. Une génération sacrifiée. Goma, Denise Louquet sur Radio Kapi.
Et justement, à l'occasion de ce triste anniversaire, soit 30 ans d'atrocités, des souvenirs parfois difficiles à se rappeler, un tableau sombre peint par le député provincial élu de Walikale, Prince Kiangi, interpelle tous ceux qui contribuent à la déstabilisation du Nord Kivu d'arrêter et ainsi donner la chance à la jeunesse. On écoute le député Prince Kiangi.
Depuis 1993 jusqu'à ce jour, les populations de la province du Nord Kivu traversent un calvaire. La population n'a pas connu de repos ou de paix réelle, si ce n'est l'intervalle entre deux conflits. C'est en effet une génération sacrifiée. Nous célébrons donc ce jour un anniversaire douloureux pour la province du Nord Kivu. J'ai saisi cette occasion pour demander à tous ceux-là qui sont impliqués dans la déstabilisation de la province du Nord Kivu à bien vouloir accepter de donner la paix à la population de la province du Nord Kivu, donner la chance à cette population de contribuer au développement de la République démocratique du Congo et de promouvoir l'épanouissement de la jeunesse de la province du Nord Kivu. À tous les acteurs négatifs dans cette situation, à bien vouloir abandonner cette voie de prise d'armes illégales. Le temps de la paix est arrivé pour que la province du Nord Kivu vive aussi la paix comme toutes les autres provinces de la République démocratique du Congo.
L'élu de Walikale rappelle au gouvernement de prendre toutes ses responsabilités visant à protéger les populations et leurs biens, surtout de créer un fonds spécial pour les jeunes pour leur auto-prise en charge. Au Kwilu, plus de 20 déplacés qui ont fui les atrocités dans le territoire de Kwamout au Maïndombe sont morts à Bandunduville où ils sont accueillis depuis août 2022. Ces décès sont occasionnés notamment par les conditions déplorables de vie à la suite entre autres du manque des soins médicaux appropriés et la sous-alimentation. Ces chiffres ont été rendus publics ce week-end lors de la visite de la délégation des chefs traditionnels Teke et Yaka conduite par le grand chef coutumier Suku, le roi Minikongo Fabrice Kava Bioko au site des déplacés de Bandunduville. Je vous l'ai dit dans les titres, c'est ce lundi 6 février que s'ouvre à Cape Town en Afrique du Sud l'édition de la conférence minière internationale Indaba. La RDC, pays minier par excellence, participe à cet événement avec une délégation qui sera conduite, sauf imprévu, par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, accompagné de la ministre des Mines, des gouverneurs du Lualaba et du Haut-Katanga, ainsi que plusieurs conseillers de la primature. Cette année, la conférence, dont les travaux s'étalent sur 4 jours, a pour thème « Débloquer l'investissement minier africain, stabilité, sécurité et approvisionnement ». Plus de détails avec notre envoyé spécial à Cape Town, Cynthia Bachizi.
Selon les organisateurs, ce sont plus de 6000 participants qui sont attendus au centre de convention internationale de Cape Town. Parmi eux, des patrons des plus grosses multinationales minières, des chefs d'État et des chefs de gouvernement, ainsi que les ministres. Sans compter tous ceux qui sont intéressés par le secteur minier. Cette année, c'est le président sud-africain Cyril Ramaphosa qui donne le coup d'envoi de l'événement ce lundi. Avec toutes les rencontres bilatérales prévues, la conférence Indaba est l'occasion de réunir la communauté minière pour susciter le changement et stimuler les investissements dans le secteur minier et celui de l'énergie. C'est dans cette optique que la RDC aura encore cette année son stand d'exhibition. S'il est vrai que le pays est doté de toutes les ressources minérales stratégiques convoitées à l'international, l'essor socio-économique qui devrait en découler tarde encore à venir tant les défis sont de taille. Manque d'infrastructures, déficit d'énergie, des gisements pas très bien documentés. Bref, c'est tout l'enjeu de participation de la RDC à Indaba depuis des années, car tous ces défis représentent des opportunités qui peuvent attirer des investisseurs et conduire à des partenariats qui soient gagnants-gagnants. Depuis Cape Town, Cynthia Bachizi, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, les comptes bancaires de la régie des eaux SA sont bloqués depuis le 31 janvier 2023 par une décision judiciaire du tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe. À la direction générale de l'entreprise, l'on redoute l'asphyxie de la régie qui est à ce jour incapable de payer les salaires des agents dans tout le pays et d'assurer le bon fonctionnement de la société. Le directeur général qualifie d'injuste cette décision du fait que la régie des eaux SA ne fait pas partie du conflit pour lequel le juge s'est prononcé. Écoutons les explications du directeur général. Général David Chilumba Mutombo au micro de Daniel Tambizoni.
Monsieur Lambda a un cas en justice contre Africell. La régie des eaux n'a pas d'affaires ou de contrat avec Monsieur Lambda. La régie des eaux n'a pas d'affaires ou de contrat avec Africell. Monsieur Lambda gagne le procès contre Africell. La justice écrit à la régie des eaux, comme aux autres entreprises de l'État, pour savoir si la régie des eaux a des obligations financières vis-à-vis de Africell pour les saisir et passer ses revenus à Monsieur Lambda. La régie des eaux écrit à la justice pour dire la régie des eaux n'a aucune relation d'affaires avec M. Lambda. La régie des eaux n'a aucune relation d'affaires avec Africell. La régie des eaux ne doit rien à Africell et Africell ne doit rien à la régie des eaux. La justice reçoit la correspondance de la régie des eaux. Sur l'accusé réception, le juge voit que la date de la réception est différente du délai qu'il avait donné à la régie des eaux et comme résultat, la régie des eaux est condamnée à une amende de centaines de milliers de dollars et la régie des eaux dit niet, on ne peut pas jouer avec l'argent de l'État de cette façon.
Et c'est ce refus de la régie des eaux à s'exécuter qui motive le blocage de ses comptes. Nos contacts pour avoir le point de vue du tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe n'ont pas encore abouti. En attendant, le DG de la régie des eaux est l'invité de l'économie à suivre à partir de 7h37 heure de Kinshasa.
Actualité internationale.
Pour son dernier jour au Soudan du Sud, le pape François a lancé un nouvel appel à la paix dans le pays. Alors qu'il célébrait la messe dimanche devant une assemblée des milliers de personnes, le souverain pontife a exhorté les habitants du Soudan du Sud, le plus jeune pays du monde, à déposer les armes et à se pardonner mutuellement. La nation continue d'être affectée par la guerre civile qui a conduit à son indépendance en 2011. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.